Jean qui grogne et Jean qui rit par la comtesse de Ségur, quatrième cassette, deuxième face, page 113. On se mit en place. Din 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 din. La musique commence et la contredanse aussi. Les demoiselles qui s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire, ne voyant rien venir, s'étonnent et deviennent sérieuses et contrariées. Le dernier chassé-croisé allait commencer. Hop ! Fait Monsieur Abel. Les danseurs se précipitent sur les danseuses qu'ils voulaient avoir et que d'autres avaient déjà enlevées. Les demoiselles s'effrayent et résistent. Les danseurs insistent. Les demoiselles cherchent à s'échapper. Les mères veulent intervenir. La mêlée devient générale. Le tumulte est à son comble. La plupart des demoiselles comprennent à demi et se résignent. L'ordre commence à se rétablir. Quelques tours de valse sont terminés, un seul couple continue à se démener, c'est Jeannot et la grosse rousse. Abandonné par Jeannot, personne n'en avait voulu, et Jeannot s'étant présenté trop tard partout et frémissant à l'idée d'avoir le punch à payer, fut trop heureux de retrouver la grosse rousse qu'il saisit pour la faire tourner. Mais la rousse, furieuse de l'abandon de Jeannot, cherchait à se sauver. La crainte d'avoir à payer le punch triplant les forces de Jeannot, il parvint à l'enlever, à la faire tourner malgré sa résistance, malgré les coups de poing qu'elle lui assénait avec la vigueur d'un colosse pesant 200 livres. L'infortuné Jeannot, plus petit qu'elle, les recevait sur la tête et n'en continuait pas moins à tourner, accroché au pli de la robe de la grosse rousse, qui de son côté criait et vociférait mille injures. Hélas! Le pauvre Jeannot eut beau supporter avec un mâle courage cette grêle de coups, eut beau s'épuiser en efforts pour accomplir son tour de valse, la danseuse l'obligea à lâcher prise et le laissa seul, immobile, près d'un groupe d'hommes au milieu desquels Mademoiselle Clorinde chercha secours et protection. Pendant cette scène, Jean, au milieu de ses rires, dit à Monsieur Abel: « Pauvre Jeannot, il va avoir le punch à payer. Quel dommage que le monsieur peintre ne soit pas ici. » Monsieur Abel se trouva tout près de Jeannot au moment où il fut obligé de lâcher sa danseuse. Il mit une pièce de 20 francs, ça ferait 400 francs de maintenant, dans la main de Jeannot, lui dit tout bas pour payer le punch et disparut. Son nom commençait à circuler et à exciter l'indignation des maires. À mesure que le calme se rétablissait, il voyait des regards irrités se porter sur lui. Il voulut prévenir l'orage et sortit. Avant de passer le seuil de la porte au bas de l'escalier, il resta un instant à réfléchir sur la soirée. Pendant qu'il récapitulait les événements auxquels il avait pris part, il entendait la voix de Jean et celle de Jeannot.
« Je suis obligé de payer le punch, c'est mon guignon qui me suit. » Monsieur Abel imagine quelque chose d'absurde. Tout le monde s'en tire heureusement. Tous, ils rient, ils sont contents. Moi seul, j'ai le malheur de tomber sur une grosse fille, pesant plus de 200 livres, qui m'assomme de coups de poing, qui me fait payer ce maudit punch.
Ne paye pas tout, pauvre Jeannot, dit Jean. Je t'en paierai la moitié.
« Je veux bien. Combien cela coûtera-t-il »«
10 francs à peu près pour tant de monde. »«
Et comment faire pour l'avoir ?»«
Veux-tu que je coure au café chez nous pour le demander ?»«
Oui, je veux bien. Et dis qu'on me fasse payer le moins cher possible. Je suis pauvre, moi. »«
Sois tranquille. Je ferai pour le mieux. » Jean sortit en courant et ne tarda pas à rentrer avec un énorme bol de punch fumant et bouillant. Aucun des deux ne s'aperçut que M. Abel était près d'eux, caché par l'obscurité.
« Eh bien, Jean, combien coûte le punch ?»«
Il y en a pour 8 francs au lieu de 12, parce que c'est pour nous. »«
Ainsi, je te dois 4 francs, puisque tu en payes la moitié. »«
Oui. » Et je donnerai les 4 francs qui restent, mon pauvre Jeannot. Jeannot fouilla dans son gousset, en retira son argent, compta et remit 4 francs à Jean, oubliant de le remercier de sa générosité. Monsieur Abel, indigné et voulant punir Jeannot de sa tromperie et de son avidité, avança la main, la passa dans la poche de l'habit de Jeannot sans qu'il le sentît, occupé qu'il était par le punch, et en retira la pièce d'or qu'il l'avait vu remettre dans cette poche. Puis, voyant Jeannot et Jean remonter avec leur punch, il sortit en disant
« Je n'ai plus rien à faire ici. J'ai vu la petite aimée. Je lui ai fait de Simon un éloge qu'elle n'oubliera pas. J'ai recommencé avec la mère. J'ai glissé au père que Simon avait déjà 3000 francs, ça fait 60 000 francs d'aujourd'hui, de placés, et ils le sont, ajouta-t-il en souriant, et en son nom. Cette petite gentille, elle paraît bonne, douce et bien élevée. Il faut qu'elle devienne Madame Simon Dutheck. Jeannot est un fripon, un gueux, un gredin. Faire payer 4 francs à ce pauvre Jean quand je lui en avais donné 20. Coquin !»
En disant tout haut ce mot, qui fit retourner quelques passants, Monsieur Abel hâta le pas et ne tarda pas à arriver à son hôtel Meurice. Chapitre 15. Friponnerie de Jeannot. Tous les matins, Monsieur Abel quittait l'hôtel, faisait une promenade à son atelier tout près de là, déjeunait au café Métis, retournait à son atelier, y restait jusqu'à la chute du jour, y recevait beaucoup d'amis, dînait en ville et allait à un cercle ou dans le monde. Jamais il ne rentrait plus tard que minuit. Il travaillait à 4 tableaux de chevalet qui devaient figurer à l'exposition. L'un devait être au livret sous le titre « Une soirée d'épicier », l'autre « La leçon de danse », le troisième « Les habits neufs », le quatrième « Une contredanse ». Ses amis admiraient beaucoup ces 4 petits tableaux. Aucun n'était fini, mais tous étaient en train et assez avancés. Dans chacun de ces tableaux, on voyait les 2 mêmes figures principales. Un jeune homme à belle figure, yeux noirs, physionomie intelligente et gaie, un autre plus jeune, mais portant une ressemblance si frappante avec le premier qu'on ne pouvait douter qu'ils ne fussent frères. Dans les habits neufs, le plus jeune était admirablement beau d'expression. Son regard exprimait le bonheur, la tendresse, la reconnaissance. « Sais-tu, lui dit un jour celui qui avait pris le nom de Caïn à la soirée de M. Pontois, « sais-tu que cette seule figure ferait la réputation d'un peintre ?»«
Elle est belle, en effet, » dit Monsieur Abel. « Elle a surtout le mérite de la ressemblance. »«
Celui qui aura ces 4 tableaux, » dit Caïn, « aura une des plus belles et des plus charmantes choses qui auront été faites en peinture. »«
Personne ne les aura jamais. C'est pour moi que je travaille. »«
Mais tu es fou, » dit Caïn. « Tu vendrais ces 4 tableaux 40 ou 50 000 francs. » Ça ferait à peu près 1 000 000 de francs de maintenant.
« On m'en offrirait 400 000 francs. »«
10 millions. »«
Que je ne les donnerai pas. Ils me rappellent de charmants moments de ma vie. Tu connais l'histoire de ces tableaux, » continua Abel. « Et tu sais le bonheur que m'a donné cette suite de bonnes actions que m'a inspiré mon bon petit Jean. Oh, quel excellent enfant, quel cœur reconnaissant, quel beau et noble regard. Il est parfaitement rendu dans mon tableau. C'est ce qui en fera la beauté et le succès.
40 000 francs ne sont pas à dédaigner, dit Caïn.
Que me font 40 000 francs, dit Abel, ajoutés à tout ce que j'ai déjà gagné. Et est-ce que je puis gagner encore, moi qui vis comme un artiste et qui ai à peine 28 ans ?
Tu as raison, Abel, mais c'est dommage. Quand Jeannot rentra chez lui, il s'empressa de retirer et de compter l'argent qu'il avait mis dans sa poche. Il eut beau compter et chercher, il ne trouva pas la pièce d'or que lui avait donnée l'inconnu. Son désespoir fut violent. Il avait compté sur ses 20 francs pour acheter à Simon les habits qu'il lui avait prêtés et dont il avait besoin. Il pleura, il se tapa la tête de ses poings, mais ce grand désespoir ne lui rendit pas ses 20 francs. Après avoir réfléchi sur ce qu'il devait faire, il résolut d'aller le lendemain raconter l'affaire à Jean pour chercher à l'apitoyer et à se faire rendre les 4 francs de ponche qu'il avait payés. Cet espoir le calma et il s'endormit paisiblement. Le lendemain, de bonne heure, Jeannot profita d'une course que son maître lui fit faire pour entrer au café Métis et pour parler à Jean. Simon était avec son frère, ce qui contraria Jeannot. Il craignait que Simon ne se laissât pas prendre comme Jean à ses pleurnicheries et à ses supplications. Après avoir vainement attendu quelques minutes que Simon le laissât seul avec Jean, il se décida à parler.
« Je suis malheureux, mon bon Jean, commença-t-il. J'ai fait hier une bien grande perte. »«
Une perte, toi? Qu'as-tu donc perdu ?» demanda Jean.
« Je voulais acheter à Simon les habits qu'il m'a prêtés hier soir, et j'avais mis dans ma poche une pièce de 20 francs pour les payer. Et lorsqu'en rentrant, j'ai voulu la retirer, elle n'y était plus. »
Simon fit un geste comme pour se lever de dessus sa chaise, mais il se rassit et ne dit rien. C'était Monsieur Abel qui venait d'entrer et qui lui faisait signe de se rasseoir et de laisser parler Jean et Jeannot. Jean et Jeannot tournaient le dos à Monsieur Abel et ne pouvaient pas le voir. « 20 francs, dit Jean, tu as perdu 20 francs. Pauvre Jeannot, je te plains de tout mon cœur. » Ce n'était pas ce que voulait Jeannot. Il espérait mieux que cela du bon cœur de Jean. Il continua.
« Et encore, si j'avais pas été obligé de payer ce ponche maudit, j'aurais pu vous donner ce mois-ci la moitié du prix des habits et achever de les payer le mois qui vient. Ah, je suis bien malheureux, Jeannot. »
Mon pauvre Jeannot, dit Jean, je suis bien triste pour toi, mais ne t'afflige pas tant. Tu sais que Simon est très bon. Je suis sûr qu'il te prêtera ses habits chaque fois que tu en auras besoin.
Mais ce ponche que j'ai dû payer, tu sais que c'est 8 francs.
Comment 8 francs, dit Jean. J'en ai payé la moitié. Ça ne fait 4 francs pour toi.
Oui, c'est vrai. J'y pensais plus. 4 francs qui sont peu pour toi, mais qui sont beaucoup pour moi. Je gagne si peu.
Écoute, mon pauvre Jeannot, dit Jean. Si tu as réellement besoin d'argent, Simon me permettra bien de te donner encore ces 4 francs.
« Jean, je te le défends !»
dit Monsieur Abel d'un ton décidé. Son apparition fit sauter Jeannot en l'air. Il avait peur de Monsieur Abel et il n'aimait pas à le rencontrer.
« Je ne veux pas que tu donnes un sou à ce mauvais garnement !» continua Monsieur Abel avec une sévérité que Jean ne lui avait jamais vue. « Il te trompe, il ment, il n'a rien perdu !» Et s'il n'a plus d'argent, tant mieux, il l'emploie trop mal.
Jeannot avait eu le temps de reprendre courage. Il essaya de tenir tête à Monsieur Abel.
Mais pourquoi me dites-vous des injures, monsieur? Je ne vous ai rien fait et vous m'accusez sans savoir si ce que je dis est vrai ou non.
Je dis que tu mens parce que je sais que tu mens, dit Monsieur Abel. Je t'empêche de tromper Jean. « Parce que je sais que tu l'as déjà trompé. »«
Non, monsieur, je ne l'ai pas trompé. »«
Silence, menteur! Hier soir, tu as extorqué 4 francs à Jean pour payer la moitié du ponche. »« Et tu venais de recevoir 20 francs pour le payer. »«
Moi, 20 francs? Jamais, monsieur. »« Vous voulez tromper Simon et Jean pour les empêcher de me venir en aide ?» Qui aurait pu me donner 20 francs? Je connaissais personne à ce bal.
Mais quelqu'un te connaissait. Ce quelqu'un a eu pitié de toi et n'a pas voulu que tu souffrisses de la farce inventée par moi. Ce quelqu'un t'a glissé 20 francs dans la main pour payer ton punch et faire passer ton chagrin.
Non, monsieur, personne n'a eu pitié de moi et personne ne m'a rien donné. D'ailleurs, vous n'étiez pas là à ce moment-là et vous n'avez rien pu voir par conséquent.
Puisque tu m'obliges à parler, dit monsieur Abel, je dis que j'étais si bien près de toi que c'est moi qui ai glissé cette pièce d'or dans ta main en te disant tout bas pour payer le punch. Et si tu n'as plus retrouvé ces 20 francs, c'est que je les avais moi-même retirés de ta poche quand tu as eu l'indignité de faire payer 4 francs à ce pauvre Jean auquel tu as fait à croire que tu n'avais pas assez d'argent. J'étais dans un coin obscur, au bas de l'escalier, et j'ai tout entendu.
Monsieur Abel se tut. Jeannot était consterné. Il tremblait de tous ses membres. Jean le regardait avec surprise et chagrin. Indigné d'une si basse supercherie, il avait peine à y croire. Simon s'efforçait de maîtriser sa colère. Il aimait tendrement son frère et ne pouvait pas supporter que l'on se joie de sa bonté, de sa générosité. Personne ne parlait. Monsieur Abel cria
« Hors d'ici, vil imposteur ! Va-t'en et ne te trouve plus sur mon chemin !»
Jeannot hésitait. Monsieur Abel le saisit par l'oreille, le traîna jusqu'à la porte et le mit dehors d'un coup de pied.
« Effronté coquin ! Misérable ! »
dit monsieur Abel en rentrant tout ému et en se mettant à table. Chapitre 16. Monsieur le peintre est découvert. Cette fois-ci, ce ne fut ni Jean ni Simon qui lui servirent son déjeuner. Simon était atterré de la hardiesse, de l'effronterie et de la fourberie de son cousin. Jean en était fort affligé et pour la première fois, il pleura. Monsieur Abel regardait les deux frères, Jean surtout, avec une compassion et un intérêt visible. Quand son déjeuner fut fini et desservi, il appela Simon.
« Viens, mon pauvre Simon, j'ai quelque chose à te dire. »
Simon s'approcha.
« Simon, continua monsieur Abel, tâche de distraire Jean du chagrin que lui donne l'indigne conduite de Jeannot, et toi-même, mon brave garçon, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Tu plais beaucoup à monsieur et madame Amédée et beaucoup aussi à mademoiselle Aimée. »
Oh, monsieur, dit Simon, c'est impossible, un pauvre garçon comme moi.
C'est pourtant vrai, dit monsieur Abel. Hier, toute la soirée, je me suis occupé de toi et ce que je te dis est positif. Les parents vous trouvent tous les deux un peu jeunes pour vous marier tout de suite, mais ils m'ont dit qu'ils te verraient avec plaisir venir chez eux le plus souvent possible.
Monsieur, je ne peux pas croire à un pareil bonheur, moi qui n'ai rien.
Quant à la fortune, mon ami, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu peux avoir tes gages augmentés, tu peux arriver à être premier garçon au café, ou surveillant, associé même.
Oh, il faudrait pour cela, monsieur, que je fusse dans la maison depuis 10 ans pour le moins.
On ne sait pas. On ne sait pas les idées qui passent par la tête d'un maître de café. Monsieur Métis n'est plus jeune, il t'aime beaucoup. Il a une grande confiance en toi. On aime avoir un associé intelligent et honnête.
Mais ça ne suffit pas, monsieur. Il faut avoir de l'argent, de quoi faire un cautionnement.
Que cela ne tienne, mon ami. Je suis là pour t'épauler, pour te servir de caution, et je ne craindrai pas de perdre mon argent.
Oh, monsieur, dit Simon, serait-il possible ? Simon resta les mains jointes devant monsieur Abel, ne sachant comment le remercier, n'osant pas se laisser aller à toute sa reconnaissance et à son bonheur. Le café était encore vide à cause de l'heure matinale. La dame du comptoir même n'était pas encore descendue. Monsieur Abel, d'ailleurs, mangeait dans une petite salle réservée aux privilégiés. Jean avait écouté et tout entendu. Il regardait M. Abel avec une expression toute particulière. Tout à coup, il s'avança vers lui, tomba à ses genoux, les lui baisa avec ardeur et s'écria « C'est vous! C'est vous qui êtes monsieur le peintre! C'est vous qui êtes notre bienfaiteur, le cœur d'or qu'aimait le mien! Je vous devine! J'en suis sûr, c'est vous! Oui, c'est vous! Oh, laissez-moi baiser vos mains et vos genoux, vous dire combien je vous aime, combien je vous respecte, avec quelle tendresse je songe à vous, avec quel bonheur je vous retrouve. Cher, cher monsieur Abel, dites-moi votre vrai nom, que je le grave dans mon cœur, dans mon esprit. Cher bienfaiteur, Simon sera heureux par vous. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu vous protège. Que le bon Dieu vous récompense. » Et le pauvre Jean éclata en sanglots, en larmes de bonheur. Monsieur Abel, fort ému lui-même, le releva, le serra dans ses bras, baisa son front, ses joues baignées de larmes, et tendit la main à Simon, qui la serra dans les siennes, et cédant à un attrait irrésistible, la baisa en s'inclinant profondément.
« Allons, je suis découvert, » dit M. Abel. « Pas moyen de résister à la pénétration de mon bon petit Jean. Cher enfant, et toi, mon bon Simon, vous m'avez donné plus de bonheur que je ne pourrais jamais vous en rendre en me découvrant les trésors de deux belles âmes bien chrétiennes, bien honnêtes. Depuis plus d'un an que je vous connais, j'ai passé quelques heures bien heureuses dont je conserverai le souvenir. J'ai toujours vécu seul, orphelin dès mon enfance, élevé, ou plutôt tyrannisé par une tante méchante, sans foi et sans cœur, sachant par expérience combien les cœurs dévoués sont rares, ayant fait moi-même ma fortune avec le talent de peintre que le bon Dieu m'a donné. J'ai éprouvé ma première rencontre avec toi, une impression qui ne s'est pas effacée. Tu étais bon, reconnaissant, affectionné. Je désirais te revoir. J'avais d'ailleurs à expier la frayeur et la peine que je t'avais causée en te dépouillant. Ta joie en me revoyant m'a touché, m'a attiré. Simon, que j'ai reconnu tout de suite à sa ressemblance avec toi, m'a paru digne d'être ton frère. Je me suis de plus en plus attaché à vous, j'ai voulu vous faire du bien sans me découvrir. Votre reconnaissance à propos des habits neufs m'a extrêmement touché et a augmenté mon amitié pour vous. Je n'ai pas de parents, je n'ai ni femme ni enfant, je suis seul dans ce monde. Je puis donc, sans faire de tort à personne, me donner le plaisir de vous faire du bien. Mais voici du monde qui arrive. Lève-toi, mon petit Jean, mon cher enfant. Nous nous voyons tous les jours. Simon, tu me tiendras au courant de tes affaires, »
ajouta M. Abel en souriant et en lui serrant la main.
« Et si on te parle de ta fortune, sache que tu as déjà 3 000 francs. »
Ça fait 60 000 francs d'aujourd'hui.
Placé en obligation de chemin de fer de l'Est.
« Oh, monsieur !» dit Simon.
« Chut, il y a du monde. À demain, mes enfants. Adieu, mon petit Jean. C'est bien toi qui as un cœur d'or.
Silence ! À demain de bonne heure. »
Monsieur Abel sortit, presque aussi heureux que ses deux protégés. Quand la journée fut finie, Simon et Jean montèrent chez eux pour écrire à leur mère, mais non sans s'être bien embrassés et félicités. Ils prièrent ensemble le bon Dieu, ils le remercièrent et lui demandèrent de bénir leur bienfaiteur et de lui faire rencontrer un cœur qu'il aima pour qu'il fût bien heureux. Puis ils se mirent à écrire chacun de son côté. Chapitre 17. Seconde visite à Quérentré. Depuis plus de 2 ans qu'Hélène Dutex s'était séparée de son enfant, elle avait reçu bien régulièrement des nouvelles, tantôt de Jean, tantôt de Simon. Elle se réjouissait de les voir heureux et elle recevait très souvent des sommes d'argent qui dépassaient ses espérances. C'était tantôt Jean, tantôt Simon qui lui envoyaient 20 francs, 400 francs d'aujourd'hui, quelquefois même 40 francs, 800 francs d'aujourd'hui. L'aisance, le bien-être régnaient dans son petit ménage. Le bon Kersac y était toujours pour quelque chose. Il se passait rarement une quinzaine sans qu'il vînt lui faire une visite. Chaque fois, il apportait de quoi se contenter, disait-il. Car, ma bonne dame Hélène, telle que vous me voyez, je suis diablement égoïste, disait d'un jour Kersac. Ainsi, l'autre jour, je vous ai apporté 2 chaises. Aujourd'hui, ne voilà-t-il pas qu'il me faut un fauteuil ? J'en ai apporté un dans ma carriole. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas, ajouta-t-il, de ce que je me soigne comme une petite maîtresse. Je deviens douillet en prenant des années. Mais vous êtes bonne, et vous n'en penserez pas plus de mal de moi, n'est-ce pas ?
Mal ? Que je pense mal de vous ? Comme si je ne voyais pas pourquoi vous apportez tout cela. Cette table, c'est pour vous, n'est-ce pas ?
Certainement, je déteste manger sur le pouce.
Et l'armoire, c'est pour vous encore ?
L'armoire, c'est pour serrer les petites provisions que je vous apporte et que je viens manger chez vous. Je n'aime pas les choses qui traînent, ça me taquine, ça me gêne.
Et le lit de la petite ?
Le lit est pour savoir ma protéger bien couchée. Je n'aime pas avoir un lit brisé, mal propre.
Et le linge, et la vaisselle, et le bois, et tant d'autres choses.
Le linge, c'est pour avoir de quoi m'essuyer quand j'arrive chez vous tout en transpiration. La vaisselle, c'est pour manger dedans. Le bois, c'est pour mettre une bûche au feu sans me gêner quand j'arrive transit froid. Enfin, écoutez donc, je suis comme ça, moi. J'aime mes aises. Ça ne serait pas bien à vous de prendre mauvaise opinion de moi parce que je suis un peu... Allons, il faut s'exécuter, lâcher le mot. Un peu égoïste. Hélène sourit.
Que le bon Dieu nous donne à tous des égoïstes de votre façon, monsieur Kersac.
Et quelles nouvelles des enfants ?
Très bonnes, merci bien. Jean me parle de vous dans toutes ses lettres. Il dit toujours, en me parlant de ce bon monsieur Abel, qui le fit penser à vous, qu'il est bon comme vous, obligeant et gai comme vous, et que comme vous, il ne peut souffrir le pauvre Jeannot.
C'est bon ça. Eh bien, ça me donne une bonne opinion de ce monsieur Abel. Ce Jeannot me déplaît plus que je ne puis le dire. Je parie qu'il finira par filouter, par voler et par se faire pincer.
Oh, monsieur Kersac, ne dites pas ça. Ce serait terrible. Pensez donc, l'enfant de ma sœur.
Ouais, mais le père était un gueux, un gredin. Excusez, ma bonne dame Hélène, je ne voulais pas vous peiner. Seulement, pour vous dire mon impression, ce garçon est jaloux de Jean. Il est envieux, ingrat, paresseux, il n'aime personne. Ah, c'est pas comme notre petit Jean. Celui-là est tout l'opposé. Mais, ajouta Kersac en se levant, j'oublie que j'ai quelques provisions dans ma carriole. Si nous dînions, j'ai l'estomac creux, il me semble que j'avalerai un pain de 6 livres.
Fin de la 2e piste de la 4e cassette, Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur, page 130.